Vatican News, le journal, il est 18h. Le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Des parapluies multicolores ce midi place Saint-Pierre. Le pape a expliqué ce dimanche aux fidèles sous la pluie que nous avons toujours le temps de guérir le mal causé en faisant le bien, que le Seigneur nous en sera reconnaissant. Lors de l'Angélus, le pape est revenu sur l'évangile du jour, évangile de Luc, qui relate l'histoire d'un gérant malhonnête qui a volé son maître et cherche un moyen de sauver ses arrières en jouant d'habileté. Xavier Sartre.
Jésus présente cet exemple non certo pour esortare alla disonestà.
Si Jésus partage l'exemple du gérant malhonnête, ce n'est certainement pas pour exhorter à la malhonnêteté, mais à l'habileté, met au point le pape. Quand Jésus invite les disciples à se faire des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles, il invite en fait à inverser la roue. La richesse pécuniaire ou matérielle, en effet, peut pousser à ériger des murs, à créer des divisions et des discriminations. Ce à quoi Jésus invite, c'est donc à transformer les biens et les richesses en relations, parce que les personnes valent plus que les choses et comptent plus que les richesses possédées. Ce qui compte, ajoute le pape, c'est qui crée et maintient vivant tant de liens, tant de relations, tant d'amitié à travers les diverses richesses, c'est-à-dire les divers dons dont Dieu nous a dotés. La finalité ultime de l'exhortation de Jésus, pour que ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles, signifie que quand nous serons accueillis au paradis, nous le serons par Dieu, mais aussi par ceux avec qui nous avons partagé, administrant bien ce que le Seigneur a mis dans nos mains, autrement dit, en transformant les richesses en instruments de fraternité, de solidarité. Malgré nos manquements et nos échecs, nous avons toujours le temps de guérir le mal causé par le bien.
Xavier Sartre. Et puis après la prière de l'Angélus, le pape a salué les participants à la Via Pacis, une course à pied pour la paix, la fraternité et le dialogue entre les cultures et les religions. Un semi-marathon promu notamment par le Conseil pontifical de la culture. 62 athlètes du Vatican y participaient. 60 dirigeants, cette fois des dirigeants du monde, sont attendus demain au siège des Nations Unies à New York pour un sommet spécial consacré au changement climatique. Et à la veille de cette rencontre qui vise à identifier des solutions pour contenir le réchauffement de la planète, l'ONU publie un rapport alarmant ce dimanche. Selon l'Organisation météorologique mondiale, les 5 dernières années constituent un record de chaleur jamais enregistré. Charbon, pétrole, gaz ont poursuivi leur croissance l'an dernier et la tendance va se confirmer avec un nouveau pic d'émissions de CO2 attendu pour la fin de l'année. L'Iran dénonce ce soir la présence de forces étrangères dans le Golfe, annonce la présentation cette semaine à l'ONU d'un plan de coopération régionale endogène sur la sécurité notamment du détroit d'Ormuz, un bras de mer crucial pour l'approvisionnement mondial de pétrole. Benjamin Netanyahou ne fera pas lui le déplacement jusqu'à l'ONU. Le Premier ministre sortant joue sa survie en Israël. Il est donc resté chez lui pour l'ouverture des consultations ce dimanche du président Rivlin, car c'est à lui que revient de décider qui aura la tâche de former le prochain gouvernement. Un gouvernement stable et, espère-t-il, d'union. Ce soir, le faiseur de roi Avigdor Lieberman a d'ores et déjà fait une annonce. Serge Renen.
Le leader du parti russophone Avigdor Lieberman laisse entendre qu'il ne donnera sa caution ni à Netanyahou ni à Gantz. Il veut connaître d'abord la décision de la liste arabe, savoir si la liste arabe donnera son appui à Benny Gantz. Dans ce cas de figure, il sera difficile à Avigdor Lieberman de soutenir le leader centriste. En effet, la plupart des électeurs de Lieberman sont ouvertement hostiles à l'entrée de la liste arabe dans une coalition gouvernementale. Après avoir consulté les différentes formations politiques, le président Rivlin invitera Benjamin Netanyahou et Benny Gantz à envisager la mise sur pied d'un cabinet d'union nationale. Serge Renen, Jérusalem, pour Radio Vatican.
Et ce dimanche, les enseignants de Jordanie ont entamé une troisième semaine de grève. 4000 écoles publiques, plus d'1 400 000 élèves sont touchés. Les professeurs demandent une hausse de salaire de 50%. Le gouvernement se dit ouvert au dialogue, mais refuse de répondre à cette demande. Au Burundi, le pouvoir s'en prend aujourd'hui à l'église. Sur Twitter, le principal conseiller en communication du président Nkurunziza a accusé les évêques de cracher leur venin de haine. Réaction à leur message pastoral en vue des élections de 2020. Celui-ci a été lu ce matin lors de la messe. Les évêques y pointent du doigt les violences frappant les partis d'opposition et les persécutions visant leurs membres, persécutions qui vont jusqu'au meurtre qui reste le plus souvent impuni. Les évêques regrettent que les jeunes du parti au pouvoir se substituent aux forces de l'ordre, faisant confondre le parti et l'administration. Attentat de Pâques au Sri Lanka. Les évêques catholiques ont récemment émis des doutes concernant l'indépendance des enquêtes en cours à quelques semaines de la présidentielle. Celle-ci serait instrumentalisée par les partis qui ne veulent pas être tenus responsables de n'avoir pas su empêcher les attaques. Message reçu par le président Sirisena. Le chef d'État sortant a ordonné l'ouverture d'une nouvelle enquête. Des centaines de vols intérieurs annulés au Japon. Le pays s'attend à être balayé par de violentes rafales. Les rafales du typhon Tapa. Ce cyclone tropical devrait atteindre cette nuit la préfecture de Nagasaki. À l'aéroport d'Hong Kong, une action prévue par les manifestants pro-démocratie a été contrecarrée sans violence par la police. En revanche, des balles de caoutchouc ont été tirées face à des militants radicaux près d'un centre commercial où des milliers de protestataires s'étaient rassemblés pacifiquement. Il est temps maintenant de retrouver notre histoire de sainteté. Sœur Catherine Aubin nous raconte la vie du bienheureux Antoine Chevrier, fêté le 4 octobre prochain.
Antoine Chevrier est né le 16 avril 1826 en plein cœur de Lyon. Il est le fils unique de parents chrétiens, de conditions modestes. Sa mère, ouvrière en soie, exploite un petit atelier à domicile. Antoine apprend à lire et à écrire avec un vieil instituteur, puis fréquente jusqu'à 14 ans l'école des frères de la doctrine chrétienne. Un prêtre de sa paroisse propose à Antoine de s'orienter vers le sacerdoce. Il accepte, malgré les réticences de sa mère. Il est ordonné prêtre à 24 ans, nommé vicaire à la paroisse Saint-André de la Guillotière, l'un des faubourgs de Lyon. Il se dépense sans compter. Il est attiré par une vie pauvre et souffre rapidement de voir que son ministère porte peu de fruits, se rendant compte que la majeure partie de la population est très éloignée de l'Église. Deux événements vont bouleverser sa vie. Le premier, les inondations de mai 1856, il a 30 ans. Véritable catastrophe. Le Rhône déborde, ravage des quartiers. Il est au premier rang des sauveteurs et se distingue par son courage. Le deuxième événement, le tournant de sa vie, la nuit de Noël de la même année. Il écrit « C'est en méditant cette nuit-là sur la pauvreté de notre Seigneur que j'ai décidé de vivre le plus pauvrement possible. C'est le mystère de l'incarnation qui m'a converti. » Dans les jours qui suivent, il va consulter le curé d'Ars, qui l'encourage dans son désir de vivre pauvrement. Il rencontre d'autres personnes, converties à l'amour des pauvres aussi, et les rejoint comme aumôniers. Il se donne tout entier à son ministère, estimant qu'on ne dérange jamais un prêtre. Il se rend compte assez vite que les deux activités réunies à la cité de l'enfant Jésus, catéchisme pour les enfants pauvres, œuvre sociale de logements ouvriers, ne peuvent longtemps coexister. En 1860, il quitte la cité de l'enfant Jésus et fonde une œuvre de première communion à la Guillotière dans un ancien bal public, le Prado, qu'il dénomme Providence du Prado. Il y recueille des jeunes de 14 à 20 ans, déshérités, les garde pour les préparer à la communion, leur donner les premiers rudiments d'instruction. Il dit « Tous les jours, faire le catéchisme. Tous les jours, être pauvre. C'est la vie du Prado. » Le local, pauvrement aménagé, sera fréquemment agrandi. Il est donc prêtre, pauvre, parmi les pauvres. Et son autre projet, former des prêtres pauvres pour les pauvres. Intuition qu'il porte depuis ce Noël 1856. Au cours d'une retraite, il peint sur les murs sa doctrine du prêtre. Le prêtre est un homme dépouillé, crucifié, manger, c'est l'axe de la spiritualité du Prado. Finalement, quatre candidats entrent au Prado, terminent leurs études et sont admis au séminaire de Lyon. Le père Antoine Chevrier entretient avec eux des liens humains et spirituels très étroits. De son côté, le Prado devient trop étroit, 200 personnes y trouvent abri. Une propriété située au nord de Lyon devient le siège de la communauté. Il a 52 ans lorsque l'archevêque de Lyon approuve le règlement de la vie des premiers pradosiens. Un an après, il a 53 ans, il meurt. 10 000 personnes assistent à l'enterrement du saint de la Guillotière. En 1986, Jean-Paul II le déclare bienheureux, témoin marquant de la foi au Christ.
La vie du bienheureux Antoine Chevrier, un sujet préparé par Sœur Catherine Aubin. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et de votre écoute attentive. Je vous retrouve demain matin à 8h30, heure de Rome, pour un nouveau tour du monde de l'actualité internationale et de l'Église. Excellente soirée à vous tous.